Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Une fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis en compagnie à distance de 2 grandes compétitrices de l'espace. Salut Margaïde.
Hello.
Salut Elsa.
Coucou.
Dans ce 23e épisode, nous parlerons de Warriors et de jeux. Et pour l'occasion, nous le réalisons en partenariat avec Numérama. Qu'on parle de jeux vidéo, de jeux en ligne ou de jeux de société, ce moment supposé de plaisir et de divertissement est souvent bourré de sexisme. De l'industrie qui pense et fabrique des jeux à la pratique elle-même, les femmes se confrontent, comme absolument partout, aux représentations sexistes, aux remarques blessantes et au harcèlement. Et détrompez-vous, aucun jeu n'est épargné. Moi-même, je pensais que jouer au Scrabble en ligne me permettrait de poser mon cerveau de féministe enragée et de faire une pause loin des relous et des ouin-ouin. Donc on notera que même après 8 années de militantisme acharné, je continue d'être naïve. Et il se trouve qu'en fait, très rapidement, des joueurs que j'affrontais ont commencé à me demander où j'habitais, si j'étais en couple.
Oh là là.
J'ai une pensée particulière pour ce type qui habitait aux États-Unis, donc tarpin loin, et qui a abandonné la partie quand je lui ai dit que j'étais en couple, me laissant bien frustrée puisque je m'apprêtais à lui mettre 80 points dans les dents.
Oh non ! Ah ouais, non, mais il avait senti venir, c'est pour ça.
Ah ouais, je crois, j'étais dégoûtée. Mauvais le meilleur joueur. Mot de ma carrière de joueuse de Scrabble, quoi. C'était génial. Du coup, bon, sur le terrain de la naïveté, je pense que c'est quand même lui qui gagne, hein, parce que le mec, il est à des milliers de kilomètres de distance, mais il semblait quand même espérer gagner une petite branlette, hein. L'espoir fait vivre. Donc, vous l'aurez compris, même quand on ne joue pas. Et nos warriors, elles vont vous prouver que le ludisme, c'est une affaire très sérieuse. Elles ont recadré des blagues sexistes, elles ont aplati leurs adversaires qui doutaient d'elles, elles ont créé leur propre jeu au collectif de joueuses, bref, elles ont encore une fois tatané le sexisme, et c'est sûrement un des jeux les plus techniques au monde. On est donc ravis de vous présenter les grandes championnes du mois, et gare à ceux qui les prendront pour des pions. Comme on vous l'a dit, pour cet épisode, on est en partenariat avec Numérama, qui pour l'occasion a mené une grande enquête sur le sexisme dans le milieu des jeux. Du coup, je vous présente Aurore, qui est journaliste et qui a bossé sur ce dossier, et c'est elle qui ouvre le bal des témoignages. On l'écoute.
Au tout début de notre enquête, on a décidé de faire un appel à témoins sur Internet, et on a tout de suite été très étonnés de l'ampleur que ça a pris. En seulement quelques minutes, on avait déjà énormément de retweets et de messages de joueuses prêtes à témoigner. Donc il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour de ce sujet, des gens qui nous disaient que c'était toujours un thème très important à traiter. C'était vraiment quelque chose de très impressionnant et triste de voir que tant de femmes étaient toujours touchées. Grâce à cet appel à témoins, on a pu recueillir énormément de témoignages de joueuses de plein d'horizons et d'âges différents qui jouaient pas du tout au même jeu, mais qui partageaient vraiment toute cette colère face au sexisme ordinaire, cette même frustration contre tous les commentaires du type « une femme, ça peut pas jouer aussi bien, t'es forcément en train de tricher, retourne à la cuisine ». C'est vraiment celui-là le commentaire qui est le plus revenu, hein, quasiment à chaque interview, vraie obsession des joueurs masculins avec la cuisine. Mais on a vu beaucoup de lassitude et de résignation aussi, malheureusement, dans ces témoignages. Beaucoup de joueuses qui n'ont vu aucune amélioration depuis le Gamergate et MeToo. Certaines ont même remarqué que c'était pire depuis. Et quand elles jouent, elles ont toujours peur de parler en vocal, de dire sur les chats que ce sont deux femmes. Et s'il y a eu quelques améliorations dans leur cercle proche, elles pensent vraiment en majorité que la situation n'est pas prête de changer.
Merci Aurore, merci pour ton travail, merci de visibiliser tous ces témoignages. Je vous invite donc à découvrir ce dossier qui est en ligne sur le site de Numérama et à le partager pour faire entendre les voix des gameuses. Évidemment, sans surprise, on constate que le sexisme est encore très très présent dans ce milieu, mais heureusement, il y a aussi de plus en plus de warriors qui répliquent, qui recadrent, qui analysent pour faire bouger les choses. Et c'est le cas de nos warriors qu'on vous présente sans plus tarder. Et pour commencer, c'est Clara qui nous raconte son histoire.
Ouais, donc Clara, en fait, elle est game designer. Et elle a eu une expérience très violente dans une école de jeux vidéo dans laquelle elle a commencé juste après sa prépa en fait.
Le problème, c'est que quand je suis passée en première année, je me suis retrouvée dans la classe avec 90% de mecs. Des mecs blancs bourgeois, et quand on enferme des mecs blancs bourgeois tous ensemble et qu'on leur laisse 95% du temps de travail en autonomie, autant vous dire que ce qui s'y passe, on n'a pas trop envie d'y être. Des remarques misogynes, des remarques racistes, des remarques homophobes, des remarques grossophobes, des remarques transphobes, tout ce que vous voulez. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait le choix tout simplement de ne plus me taire et de, quand je le pouvais, leur tenir tête tout simplement. Ce qui, vous serez très étonnés, ne leur a pas du tout plu. Et résultat, on m'a facilement prise en grippe. Et malgré le fait que je faisais du bon travail, en fait, je me suis retrouvée mise à l'écart de plus en plus sur les travaux de groupe. Travaux de groupe qui représentaient bien 80% du travail qu'on faisait dans l'école. Résultat, donc, je me sentais de plus en plus seule et j'avais de plus en plus de mal à travailler. Donc mon refuge, c'était les réseaux. J'échangeais, je me plaignais pas mal de la situation sur Twitter, avec des personnes qui me ressemblaient, des amis ou tout simplement des personnes du milieu qui pouvaient avoir connu quelque chose de similaire à ce que j'ai vécu. Donc je ne sais pas si j'étais surveillée depuis longtemps sur ce réseau, mais un jour j'ai eu le plaisir d'avoir une petite notification du groupe Facebook de ma classe, sur lequel j'ai découvert tout simplement une publication d'un gars de ma classe qui avait publié un screen en fait d'un de mes tweets sur le groupe. Et qui disait des choses pas super sympas à leurs propos, dans le sens où je disais que j'aimais pas passer du temps avec ces personnes et que c'était pas agréable d'être avec eux, à peu près, globalement. Ce qui m'a évidemment valu les foudres de la majorité de ma classe. Et globalement, en fait, c'était tout simplement ce qui leur manquait pour avoir une raison valable de me mettre à l'écart et de m'en vouloir pour autre chose que le fait que je les corrige sur des choses qu'ils n'avaient pas à dire. Donc là, j'ai été tout simplement intimidée, voire même légèrement menacée. On m'a dit de ne pas remonter ça à la direction, ce qui a été fait même si ça venait pas de moi. Mais évidemment, je pense que vous serez surpris, la direction n'a rien fait. Voilà. Et en fait, tout simplement, ça s'est passé en milieu de semaine et je ne suis plus retournée en cours avant la semaine suivante, parce que je savais pas comment gérer, j'arrivais pas. Et quand je suis revenue, en fait, ça a été tout simplement la dégringolade, puisque tous les jours, c'était... une épreuve encore plus qu'avant d'aller en cours. Et tous les matins sur le trajet, je mettais Rihanna et Britney Spears toujours plus fort dans les oreilles pour me donner de la force en fait tout simplement. Sauf que il y a un jour ça a plus suffi. Et arrivé à moins de la moitié de l'année scolaire, j'en pouvais tout simplement plus en fait de la situation. Et un matin, en me levant, j'ai tout simplement pas réussi à sortir de mon lit. Je suis tombée en dépression en fait. J'ai arrêté l'école. J'ai passé un peu plus de 2 mois dans mon lit, à pleurer souvent et à ne plus sortir de chez moi. Honnêtement, à ce moment-là, je pensais que c'était fini et que je pourrais jamais travailler dans le jeu comme j'en avais tant envie. Et que, il fallait que je trouve autre chose, quoi. Donc pendant tout ce temps, en fait, j'ai pris un peu soin de moi. Mes proches ont pris soin de moi, m'ont beaucoup aidée. Et lentement, très lentement, ça a été long, ça a été compliqué... Mais j'ai fini par me remettre sur pied et en juin-juillet, j'ai tout simplement trouvé la force de candidater pour une nouvelle école en ligne cette fois-ci. En fait, en septembre dernier, j'ai commencé. J'ai pu reprendre confiance en moi petit à petit et en mon travail surtout parce que en fait, j'avais totalement perdu foi en ce que je faisais. Et le fait que ça soit en ligne, ça m'a tout simplement permis de me reconstruire mon rapport aux autres qui était anéanti par rapport à la situation. Et lentement, en fait, chez moi, j'ai pu contrôler aussi beaucoup mes échanges avec les autres et les adapter à ce que je pouvais supporter en quantité d'interaction et couper quand j'en ressentais le besoin. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis un des meilleurs éléments de ma promo, que j'ai plus peur. que quand il y a quelque chose à dire, bah, je le dis, que j'ose élever la voix quand il y a besoin et j'ose reprendre les gens à nouveau quand il faut. J'ai réussi à me faire des amis et même des alliés. Et que maintenant, même si le boys club de ce milieu, il m'a fait mettre un genou à terre avant, et bah, je me suis relevée et je suis forte et je suis fière. Et je ne baisserai plus les bras. On est là, en fait. On existe. On ne se laissera plus marcher dessus. On veut le game over des vieux masculins, tout simplement. Les warriors du milieu vidéoludique, je pense à vous. On est ensemble, on est fortes. Et on y arrivera.
Wow.
Wow.
Bravo, Clara.
Trop forte.
Ah ouais, on est forte et on est là.
Ouais, franchement, vraiment bravo, merci pour ce témoignage, force à toi. C'est vraiment super touchant, moi, à la fin, quand elle a dit « j'ai plus peur », franchement, ça m'a fait des frissons, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça, quoi, faut renverser le truc de la peur, parce que c'est quand même hallucinant, Plus rien ne nous étonne, hein, mais voilà, c'est encore une expérience de plus qui prouve à quel point le système est sexiste et partout, quoi. Il y a d'ailleurs l'administration de l'école qu'elle a averti qui n'ont pas réagi. Hein, merci. Moi, ça m'a fait penser aussi que les travaux de groupe, effectivement, ça peut être un traquenard, surtout quand t'es une des seules meufs. Forcément, tu te sens hyper isolée, quoi. Et après, voilà, après le harcèlement qu'elle a subi. Toutes les étapes en fait qu'elle décrit, c'est vraiment le classique, hein, malheureusement. Mais voilà, sentiment d'isolement, difficulté à se concentrer, à travailler, perte de confiance en elle. Elle a quand même dû changer d'école. C'est quand même hallucinant. Ça fait référence aussi à des choses dont on a parlé dans notre épisode sur les grandes écoles, parce qu'on avait aussi ce genre de situation. Après, ça m'a fait plaisir pour elle que quand même son entourage l'ait bien aidée, parce que c'est pas toujours le cas aussi. Les gens peuvent vachement remettre en doute et dire « Ah, mais t'es relou, c'est bon, ils doivent pas être si chiants que ça, tes camarades, quoi. » Donc, merci à son entourage aussi. Je pense aussi peut-être qu'il faut pas hésiter à chercher de l'aide, hein, que ce soit du soutien psychologique ou comme elle l'a fait d'ailleurs sur Twitter, à chercher des gens qui peuvent vivre la même chose, etc. Parce que s'en sortir tout seul, c'est vraiment difficile, quoi, ce genre de situation. Mais en tout cas, voilà, merci encore Clara pour ton témoignage et force à toutes les meufs qui vivent ce genre de truc. Ne vous laissez pas faire et voilà, vous pourrez relever la tête, c'est possible. Mais c'est vraiment super dur, hein, franchement. Moi, ça m'a bien touché ce témoignage.
Ouais, carrément.
Mais elle va tout déchirer, elle va faire une carrière de ouf.
Mais oui.
C'est sûr.
On a hâte de voir ses jeux vidéo.
Grave. Ça va faire un petit peu le lien aussi avec notre prochaine warrior. Elle s'appelle Aurélie. Aurélie, elle a 30 ans et elle joue avec son conjoint à un jeu qui s'appelle Magic. C'est un jeu de cartes et du coup, tous les deux, ils participent à des tournois, mais en ligne, contre des adversaires qu'elle et ils connaissent plus ou moins. Donc, faut savoir qu'Aurélie, elle est féministe, elle est engagée, elle a créé un collectif qui s'appelle les Félinades. Et pourtant, il lui arrive encore de ne pas savoir quoi répondre face au sexisme ou d'être sidérée.
Comme nous toutes.
Mais en fidèle auditrice de Yes, elle a décidé de ne plus faire le dos rond. Donc, elle nous raconte ce qui s'est passé pendant le confinement. On l'écoute.
On fait un tournoi. Comme d'habitude, je suis la seule fille. Et il y a un mec un peu bizarre, un peu lourd dans ses blagues. Il propose très clairement à mon conjoint d'échanger son mec contre sa femelle, la femelle de mon conjoint. Sur le coup, je bug, mais la conversation continue, ça s'arrête pas. Moi, clairement, j'hallucine en disant « Mais attends, on vient de me traiter de femelle de quelqu'un ?» Je commence à enrager, et je fais mon tournoi bon gré mal gré, mais voilà, la colère se calme pas. J'en parle quand même autour de moi, à mon conjoint, à mes collègues, à mes amis, et qui tous disent « Ouais, c'était un peu malaisant à ce moment-là. Génial. » Sauf que les jours passent et moi, j'ouvre pas ma gueule. Et en fait, j'écoute encore quelques podcasts de Yes, et je me dis « Mais putain, en fait, non, bah, je vais faire comme toutes ces filles trop badass, en fait. Je vais pas laisser passer. » J'ai donc été parler au gars, et j'ai rédigé un petit message qui se voulait un peu croustillant. Je vais donc vous le lire. « Salut ! Il y a sans doute moyen qu'on se recroise dans la vraie vie, ou en partie en ligne, et j'ai un truc que tu as dit la dernière fois qui me reste un peu en travers de la gorge. Même si c'est pour la blague, j'ai trouvé ça assez lourd que tu parles de la femelle de machin. C'est lourd et c'est pas drôle. Et si j'ai pas voulu casser l'ambiance pour le coup, j'apprécie vraiment moyennement de me faire animaliser, et d'être présentée comme la propriété de quelqu'un. Je suis la seule fille du tournoi, mais je ne tolère pas qu'on me manque de respect. J'espère que tu comprendras mon point de vue, et je préfère crever l'abcès avant de t'affronter sur Magic. Bien sûr, il a pas trop tardé à répondre, en me disant que l'idée n'était pas de m'animaliser, mais d'absurdifier justement l'usage du mot femelle. Il s'excuse en disant que c'est vrai qu'on se connaît pas et que il voulait pas me blesser, mais il me balance quand même des phrases un peu sympathiques à base de « Je pensais que tu avais saisi le message, et d'ailleurs dans ma tête, tu avais même rebondi intelligemment dessus, mais j'ai dû prendre mes rêves pour des réalités. » Le gars commence vraiment à me saouler. Et puis en plus, il se dit être de l'école des gens qui pensent que les mots devenus insultants doivent être répétés, non pas en tant qu'insulte, pour pouvoir briser cette valeur. Donc je lui réponds que j'accepte carrément ses excuses. Par contre, pour ce qui est de sa justification, je suis pas d'accord, et que j'ai pas vraiment envie d'en débattre. Pour moi, la réappropriation des insultes, c'est par les personnes qui ont été discriminées, et ça marche pas du tout comme il l'a utilisé en fait. Bref, je lui dis, voilà, je suis pas d'accord avec toi, mais tu connais pas mes codes de fonctionnement, donc voilà, je te le dis, point barre. Là-dessus, il commence à faire son ouin-ouin en disant que j'aurais dû me dire que son intention n'était pas de me blesser et qu'il n'était pas sérieux. Il me dit aussi que, avant de sentir la lourdeur dans sa remarque, qui était beaucoup plus fine que ça, ça c'est clairement ce qu'il a écrit, j'aurais dû un petit peu réfléchir. Et que bien sûr, laisser la réappropriation aux victimes, c'est encore souligner l'ancien usage de façon plus pernicieuse. Franchement, dans ma tête, j'ai bondi en lisant ça, et je me suis dit, mais en fait, j'ai autre chose à foutre que rééduquer un pauvre mec, je vais prendre un temps fou. Donc moi, je lui ai dit ce que j'avais à dire, s'il n'est pas capable de l'entendre, j'ai autre chose à faire. Je lui ai donc répondu que j'avais dit que je ne voulais pas débattre, et que donc ça s'arrêtait là. Que de toute façon, je ne permettais pas à quelqu'un que je ne connaissais pas de me parler comme ça. Et que même si c'est pour la blague, c'est de l'oppression systémique. Donc, stop. J'étais très très fière de moi. Et je pense que maintenant, je vais arrêter de faire le dos rond et je laisserai plus jamais rien passer. Je ne suis pas un animal, je suis encore moins la propriété de quelqu'un. Je suis libre et je suis libre de faire ce que je veux et je permettrai jamais à quelqu'un de me manquer de respect.
Ah là là.
Ah mais non, mais n'importe quoi. Mais le gars, il est sur, il vient de quelle planète lui?
Il
non,
est
ah,
mais
je sais pas. Mais ah ouais, il a pas peur des arguments fallacieux pour justifier sa blague de merde. Donc bon, bravo Aurélie pour la pédagogie et puis ensuite la fin de la pédagogie aussi parce que ça va bien un moment. Il faut se faire payer à un moment donné pour enseigner des choses.
C'est ça.
Donc je trouve que c'est la pire justif du monde et en plus, alors disons-le une fois pour toutes, l'humour sexiste, c'est pas de l'humour.
C'est ça.
C'est juste du sexisme en fait, comme l'humour raciste, etc. Ça n'est pas drôle, absolument pas une seule seconde. Donc bon, moi je suis hyper touchée parce que Aurélie dans son témoignage, elle a évoqué plusieurs fois le podcast Yes en disant que justement
oui,
c'était
oui, oui.
d'entendre des meufs répondre, etc. qui l'a aussi motivée à reprendre le dessus sur cette situation alors qu'au démarrage, ben voilà, les choses se sont passées vite, elle a pas forcément eu le temps de réfléchir à une réplique, etc. Donc c'est top parce que du coup bon ben on se rend compte que Yes fait exactement l'effet qu'on espérait qu'il ait quand on l'a créé. Donc merci beaucoup Aurélie. Et puis son histoire, elle m'a rappelé aussi, en termes d'argumentation, etc., de pédagogie, les performances militantes de Angela Washko. C'est une artiste et gameuse de haut vol qui mène en fait des expérimentations à l'intérieur des jeux. Et elle a notamment fait parler d'elle en se baladant dans World of Warcraft, non pas pour jouer, mais pour parler féminisme avec les joueurs, et donc recueillir leurs propos.
Trop bien.
Donc c'est un truc que personne n'avait jamais fait, hein. La nana, elle se balade, elle joue pas. Elle est là pour chatter avec les gens, quoi. Et du coup, elle publie des vidéos, des échanges qu'elle a avec d'autres joueurs et joueuses, pour montrer l'état des mentalités à l'intérieur de ces serveurs. Selon elle, ce jeu-là, il est devenu une espèce de refuge pour exprimer ses idées sexistes, racistes, homophobes, etc. Et il y a très peu de joueurs ou de joueuses qui s'y opposent. Au contraire, il existerait même une formidable solidarité entre ces gens hyper conservateurs parce que, soi-disant, c'est des idées qu'ils oseraient plus exprimer dans la vraie vie et du coup, ils se lâchent complètement à l'intérieur du monde virtuel. Et les quelques joueuses qui se dressent contre ce système, elles se voient quasi systématiquement menacées de mort et de viol. C'est très sympa. Du coup, je vous invite à découvrir son travail. Je rappelle son nom, Angela Washko, W-A-S-H-K-O. Et je vous mets dans la description de l'épisode un lien d'un article à son sujet. Parce que du coup, c'est super badass. C'est vraiment autant une performance artistique qu'une démarche de recherche, en fait, qu'elle mène. Et ça permet de mettre à jour des choses qu'on croit secrètes, qu'on croit cachées à l'intérieur du jeu. Donc, super badass aussi, cette meuf.
Bah ouais, c'est super. C'est une super idée, franchement.
Grave.
Je vais aller voir ça tout de suite.
C'était trop bon. Bah, du coup, Marga, c'est toi qui nous présente notre prochaine warrior.
Et oui, notre prochaine warrior, c'est Lucie. Et alors, comme Clara, dont on a entendu le témoignage tout à l'heure, alors elle a été la cible de propos sexistes de la part des autres étudiants quand elle était à l'école de game design, elle aussi. Donc, ça a l'air quand même d'être assez, assez courant, malheureusement, même si ça nous surprend pas beaucoup. Et en plus, alors, pareil, hein, comme Clara, quand elle a été chercher de l'aide auprès de la directrice pédagogique, bah, en fait, elle a encore plus enfoncé au final, puisque la directrice lui a dit que si elle ne supporte pas ses comportements, eh ben, elle n'avait rien à faire dans le milieu du jeu vidéo, parce que le milieu professionnel, c'était encore pire que l'école.
T'es sérieux?
Voilà, merci. Merci du soutien. Mais heureusement, Lucie a persévéré et elle a fini par rejoindre une association qui s'appelle Women in Game, les femmes dans le jeu en français, et qui l'a aidée à reprendre confiance en elle. Alors, dans son témoignage, il va être question de Twitch. Pour celles qui connaissent pas, c'est une plateforme de streaming. Ça ressemble un peu à YouTube, mais ça a été créé pour la communauté des gamers et des gameuses. Alors, le principe, en gros, les joueurs peuvent se connecter et jouer en direct. En fait, ils montrent leur partie en direct. Et pendant ce temps, les spectateurs, qu'on appelle les viewers, peuvent commenter directement. Et c'est un réseau qui est très, très masculin, mais on en reparlera après. D'abord, je vous propose d'écouter Lucie nous présenter un petit peu le travail de l'association qu'elle représente.
Suite à ça, il y a eu la Paris Games Week 2017, où j'ai été bénévole sur le stand des Women in Games. C'est la première fois que je faisais une action avec l'association et ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait vraiment cet esprit d'entraide. J'ai rencontré plein de femmes qui avaient réussi dans le milieu et ça m'a prouvé que c'était pas impossible d'y arriver, juste qu'il fallait tenir bon et puis s'entraider, quoi, tout simplement. Moi, c'est grâce aux personnes que j'ai rencontrées, les Women in Games, qui m'ont vraiment donné envie de continuer en ce milieu-là, de continuer à vivre de ma passion. Et je pense que sans elles, j'aurais certainement abandonné. Notre association Women in Games, elle a pour but de favoriser la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Par exemple, on essaye de mettre en avant des rôles modèles de femmes qui ont pu réussir dans l'industrie et qui pourraient inspirer d'autres personnes à s'engager là-dedans. On a aussi tout un aspect réseautage avec l'organisation de networking, par exemple, ce qu'on fait souvent à la Paris Games Week, ou de manière générale, dans différentes villes, ça se fait pas mal à Paris, à Lyon, à Nantes. On sensibilise aussi les acteurs du milieu parce que c'est hyper important, en fait, d'avoir les personnes qui sont déjà dans l'industrie, qui sont déjà installées, qui soient conscients et conscientes des problèmes qu'il peut y avoir et qui essayent eux-mêmes de régler les choses en interne. Une des grosses actions qu'on a fait dernièrement, c'était les 48 heures de week début mars sur Twitch. On a créé cet événement-là parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes également sur Twitch. On avait 8 femmes qui étaient présentatrices. Pour la plupart, c'était des streameuses déjà. C'était important pour nous de mettre en avant ces femmes-là qui font déjà un taf incroyable sur la plateforme. Et également, au travers des différents créneaux qu'on a pu faire, mettre la mixité en avant. On a également eu des cosplayeuses, des speedrunneuses, on a eu des débats, on a eu une émission sur les mangas. La nuit, les présentatrices, elles jouaient à différents jeux entre elles, des jeux coop, des jeux versus, c'était hyper sympa. Et ça a eu l'air de pas mal plaire aux gens parce qu'on avait en moyenne 2000 viewers, on est même monté jusqu'à plus de 4000 vues maximum, donc ce qui est énorme pour nous parce que habituellement, nous, notre chaîne, elle fait que 40 viewers à peu près. Quelque chose d'hyper positif qu'on a remarqué aussi pendant le marathon, c'est qu'il y a eu beaucoup de commentaires positifs. Il n'y a pas eu trop de commentaires qui ont dû être supprimés. De manière générale, c'était vraiment bienveillant, les gens étaient contents de voir cet événement-là et on a eu beaucoup de bons retours, donc ça, c'est vraiment génial. On espère qu'au travers de ce marathon-là et au travers de nos différentes actions qu'on peut faire, on donne envie à des gens de se lancer dans ce milieu-là. En tout cas, merci de l'invitation et merci de donner la parole aux femmes du jeu vidéo parce que c'est un milieu qui est encore hyper stigmatisé. Bien que le jeu vidéo, ce soit une passion, c'est également un vrai métier et il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette industrie qui est, mine de rien, encore assez jeune. Et je suis vraiment persuadée que les choses vont dans le bon sens et que d'ici quelques années, ce sera hyper agréable de travailler dans ce milieu-là.
Yes.
Ouais, super optimiste, Lucie.
Grave.
C'est cool.
Bah, on espère qu'elle a raison, hein. On demande que ça de lui donner raison.
ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est important de mettre en avant les réseaux professionnels qui mettent les femmes sur le devant de la scène parce que c'est aussi comme ça que, qu'on crée des vocations et surtout qu'on serre les coudes, surtout quand on a des histoires comme ce qu'on a eu tout à l'heure, de femmes qui se font harceler. On a besoin de ces groupes-là pour se sentir plus forte, tout simplement. Et pour revenir sur Twitch, en fait, si c'était si important pour Lucie de faire des événements sur Twitch, c'est pas par hasard, hein, parce que c'est vraiment un milieu hyper hyper sexiste avec très peu de femmes. Elle a parlé de streamers et de streameuses, hein, petit point vocabulaire. En fait, ce sont les personnes qui montrent leur partie de jeu vidéo sur Twitch ou qui mettent en ligne des vidéos sur Twitch. On les appelle des streamers et des streameuses. Et ces derniers mois, il y a énormément de streameuses qui ont dénoncé le sexisme sur cette plateforme et les injures et les appels au viol dont elles sont victimes très régulièrement. Et c'est allé jusqu'au point, alors je vais vous raconter une petite histoire pas très drôle. Alors il y a une des utilisatrices de Twitch qui est aussi étudiante à Sciences Po. Elle s'appelle Clara et elle a réalisé une étude en fait. Elle a analysé 150 heures de live vidéo, de stream de 3 des plus gros streamers français et elle a relevé toutes les injures, les propos, les comportements sexistes donc de la part des streamers mais aussi de la part des personnes qui commentent en direct sur les vidéos. Elle a notamment, alors une des choses qu'elle a mis en avant, c'est que dès qu'il y a l'apparition d'un personnage féminin dans le jeu ou d'une voix féminine, ça déclenche quasiment systématiquement des appels au viol ou des injures sexistes, quoi. C'est vraiment assez ancré dans ce réseau. Donc je vous mettrai en lien cette étude qui est très complète. Mais le pire, c'est pas le constat qu'elle a fait en menant cette étude, c'est que elle a mis en ligne de façon très sympa et gratuitement, totalement libre son étude. Et dès qu'elle a fait ça, en fait, elle a été harcelée sur Twitter par les streamers qu'elle a étudiés qui ont appelé à des véritables raids sur elle, c'est-à-dire qu'ils ont appelé tous leurs followers à aller harceler Clara sur les réseaux. Donc elle a été très forte parce que elle a réussi, elle s'en est sortie quoi. elle a subi ça et aujourd'hui elle continue ses études et malgré le harcèlement dont elle a été victime. Donc voilà, bravo. Il faut encore du courage aujourd'hui pour dénoncer le sexisme sur Twitch. Donc voilà, bravo à Clara aussi. Oui. Et bravo à Lucie. Alors si vous avez un petit peu envie d'approfondir, vous pouvez écouter une émission en podcast de l'Instant M, une émission de France Inter qui traite des médias, qui s'appelle « Le gaming est-il misogyne ?» où Lucie intervient aux côtés d'une autre streameuse et c'est vraiment super intéressant. Moi, c'est vraiment un thème que je connaissais absolument pas avant de préparer l'épisode et vraiment, je vous recommande parce que vraiment, les femmes qui travaillent dans ce milieu-là, vraiment chapeau, quoi. Elles sont archi fortes, quoi.
Bah, elles sont juste en train d'essayer d'enfin faire basculer le monde dans le 21e siècle où on est censé être, en fait.
C'est ça.
La tâche n'est pas toute
update,
petite.
Mise à jour.
C'est exaspérant. Bon, force à vous toutes, en tout cas, qui êtes dans ce milieu. Et vous allez voir la prochaine Warrior, elle va vous donner le sourire. La prochaine Warrior, c'est Vanny. Et c'est ma pote féministe au travail, Vanny. On enseigne ensemble dans la même école et c'est ma meilleure alliée, quoi. C'est vraiment ma pote féministe. Donc, je suis ravie de l'accueillir dans cet épisode. D'autant qu'elle a très, très tôt commencé sa carrière de Warrior. L'histoire qu'elle va nous raconter, elle s'est passée quand elle avait 18 ans. Et déjà, à cet âge-là, il fallait pas l'emmerder.
À l'époque, je jouais beaucoup à un jeu vidéo qui se joue en équipe dans un cybercafé. Alors, je jouais avec mon ex et tous ses potes, et évidemment, il y avait que des mecs au cybercafé. Alors, à chaque fois que je gagnais, ils trouvaient une excuse. Donc, par exemple, c'était parce qu'il y avait un mec fort dans mon équipe ou parce que j'avais pris un héros entre guillemets cheaté, c'est-à-dire meilleur que les autres, ou alors un coup de chance simplement. Quand je perdais, c'était du pain béni parce que ça confirmait bien ce qu'ils pensaient. Vient le jour où le cybercafé décide donc d'organiser un tournoi. Et il y avait deux nouveaux qui venaient d'arriver, qui étaient novices dans le jeu. Un qui était ouvertement bisexuel et l'autre qui était, entre guillemets, trop efféminé pour eux. Enfin bref, ils nous mettent en team ensemble. On était un peu les rebuts, quoi. Donc ils pensaient nous éliminer super vite et on gagne le tournoi. Étant la plus ancienne, entre guillemets, de la team, je gagne une espèce de souris, mais une souris de gamer du futur, qui, pour nous à l'époque, coûtait super cher. Au moment où on me la remet, j'appelle mon mec, donc mon ex, devant tous ses potes et tous les participants, et je lui offre en lui disant, voilà, avec ça, tu pourras peut-être t'améliorer.
J'adore.
Allez.
La petite humiliation. C'est tellement bien placé. Bon, c'est quand même con de renoncer à une souris du futur pour humilier le mec, mais bon, ça, je trouve que la petite vengeance, elle marche super bien. Il a dû se sentir comme une bouse et c'est parfait. Du coup, on a discuté de tout ça avec Vanny. Elle m'a parlé des attitudes sexistes en ligne pendant le jeu de la part des autres joueurs et c'est effarant. Certains joueurs font faire des striptease à leur personnage devant toi, ouais, où ils se collent à ton personnage et ils simulent des actes sexuels. Ouais. Non, et quand tu les signales à la modération, certains te proposent de te payer pour que tu retires ta plainte. Genre tranquille, ça nous rappelle pas du tout mille histoires de harcèlement au travail, quoi.
C'est clair.
Donc voilà, elle m'a expliqué que carrément, elle a fait de tous ses personnages des mecs en prenant des avatars masculins, uniquement pour éviter ses comportements et ses propos sexistes. Mais comme certaines missions se jouent avec un casque et un micro, bah, les types finissaient par la griller, comme tu le disais tout à l'heure, à la voix. Et là, c'est la même merde qui recommence. Et en fait, comme elle, il y a énormément de gameuses qui cachent leur genre en ligne. C'est dire la pression qu'on te fout quand t'es une femme. Mais des fois, tu te fais griller sur des détails, genre le simple fait d'avoir accordé une phrase au féminin dans le chat. D'ailleurs, je vous mets dans la description de l'épisode un autre article, cette fois des Inrocks, qui parle précisément de ce sujet, pourquoi les femmes cachent leur genre dans les jeux en ligne. Les témoignages, ils sont affligeants. Il y en a même qui ont été éjectés du serveur au premier signe de féminité. Incroyable, quoi. Et pour confirmer ces faits, il y a une expérience qui a été menée en 2013, intitulée « La communication dans les jeux multijoueurs, un examen des réponses aux signaux genrés ». Et les chercheurs et chercheuses ont remarqué que lorsqu'ils utilisaient des voix de femmes, ils recevaient 3 fois plus de commentaires négatifs que lorsqu'ils utilisaient des voix d'hommes. Mmh. Juste à la voix, t'as même pas encore commencé à exister, hein, juste on a capté que t'étais peut-être une meuf. Mais finalement, tout ça, c'est peut-être aussi à nouveau une question de représentation. J'ai regardé un petit peu les travaux d'Amanda Cote, qui est une chercheuse qui a pas mal planché sur le sujet. Je la cite. « Si de plus en plus de joueurs qui n'entrent pas dans la catégorie du stéréotype homme blanc hétérosexuel se mettent à jouer, leur présence suffira peut-être à déjà réduire les comportements discriminatoires. » Donc on encourage nos warriors à s'approprier de ces espaces à fond, comme l'espace public, comme le travail, comme le sport, tout. Et surtout, à bien défoncer les mecs une fois pour toutes.
Ouais, allez, carrément. Une petite claque.
Batte de baseball.
Bien, on a parlé de jeux vidéo et de jeux en ligne dans la première partie. Maintenant, on va passer à la partie jeux de société et jeux de plateau. Et là aussi, il y a fort à dire. Marga, tu nous présentes notre prochaine warrior.
Oui, alors qu'est-ce que vous diriez d'un jeu de société dont le but serait de renverser la société patriarcale ?
J'achète. Oui. C'est combien? Prends mon argent.
J'étais sûre que ça vous plairait. Bon, attends, va falloir être un peu patiente, Anaïs, hein, parce que c'est pas pour tout de suite. En fait, c'est un jeu qui s'appellera Désobéissance, et c'est un collectif de 6 warriors qui est en train de travailler dessus. Elle s'appelle les Gougères, et l'une d'entre elles, Aude, nous raconte l'histoire de ce projet.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que Noémie, donc c'est une de nos 6, les Gougères, s'était fait une fois de plus en bêtée dans la rue, c'est gentiment dit, et elle avait posté un long post Facebook en se demandant comment on pouvait éduquer les mecs, les jeunes, enfin faire que ça change, quoi. Et en y réfléchissant, on s'est dit qu'il y avait déjà plein d'assos qui faisaient de la sensibilisation dans les lycées, tout ça. Alors on s'est dit qu'on pourrait créer un jeu, et qu'en plus ce serait chouette à faire. Et le but, c'était de viser des joueurs jeunes et de créer un vrai jeu drôle avec de la stratégie et tout, mais qui servirait d'outil de sensibilisation pour ces associations qui interviennent déjà en milieu scolaire et parascolaire. Du coup, on s'est réunis à 6, motivés, et puis on s'est lancés. À l'époque où on a commencé à travailler sur ce jeu, on a surtout constaté l'inexistence ou quasi de jeux destinés à aborder la question féministe pour les lycéens, et même pour les adultes, enfin les jeux auxquels nous, on jouait, quoi. Et après, on a vu aussi, et on voit toujours, qu'il y a du sexisme quand même un peu partout dans les jeux de société. Et même si le sujet en soi n'est pas sexiste, les personnages féminins sont rares, et en plus, souvent, ils sont dessinés avec une vision... plutôt autour du fantasme masculin que une vision représentative et inclusive des femmes. Après, on s'est aussi rendu compte, donc plus tard, quand on avait déjà un prototype bien ficelé, en fait, on a postulé à une dizaine de concours et en fait de concours de jeux de société pour faire financer la création. Et on a pu voir quand même que les jurys étaient toujours à majorité masculine et les participants et surtout les lauréats étaient également quasiment que des mecs. On a aussi vu, ça c'était pendant qu'on créait notre prototype, qu'on nous prenait pas toujours au sérieux dans les magasins spécialisés, particulièrement quand on cherchait des articles pour créer, construire notre prototype, etc. Les gens avaient un peu du mal à nous prendre au sérieux. Alors le principe de notre jeu, c'est une équipe de lycéens et de lycéennes, les joueurs et du coup les joueuses, doivent renverser la société et retourner le plateau pour ne pas être embrigadés dans une société sexiste. Pour ça, ils doivent agir ensemble, avoir des stratégies de déplacement, répondre à des questions de culture G, réussir des défis. Alors la phrase qui revient le plus après que les gens aient testé notre jeu, c'est « Ah mais vous avez créé un vrai jeu en fait !» Et à chaque fois ça nous fait un peu rire. On est là « Oui, oui, on vous avait bien dit que c'était un gros jeu de plateau. » Mais sinon, hormis cet étonnement qui est quasi à chaque fois, on a essentiellement des super retours. Et d'ailleurs ça fait mes... super plaisir, avec en plus des retours positifs de gens qui aiment pas trop jouer ou qui sont pas pareil, très branché féminisme à la base.
Charmé.
Trop bien.
Mais ouais.
Ça donne envie.
Bravo. C'est une super idée en tout cas. Le côté, moi j'adore le côté renverser le plateau.
Ah ouais.
Grave. C'est une trop bonne idée.
Renverser la société patriarcale, je trouve ça génial.
Ouais, et puis de devoir faire équipe quoi, de pas être dans un jeu où t'es juste face à des adversaires, mais faire équipe pour arriver à gagner, c'est bon ça.
Ouais. Alors elle m'a recommandé aussi un jeu comme ça collaboratif qu'elle aime bien, qui s'appelle Le Désert Interdit. Alors moi je connaissais un jeu collaboratif aussi qui s'appelle L'île interdite, je crois que c'est de la même série, et c'est vrai que c'est des jeux qui sont très chouettes à jouer, où en fait le désert interdit, tu dois t'enfuir d'un désert et collaborer avec les personnes qui jouent avec toi pour t'échapper du désert, et c'est vraiment des jeux avec des mécanismes très chouettes.
Très cool.
Et ça change des jeux justement où t'es en compétition les uns contre les autres.
Bah oui.
Alors moi ce que j'ai trouvé quand même légèrement encore un peu agaçant voire énervant dans ce qu'elle raconte, Aude, c'est que encore une fois, quand un groupe de jeunes femmes se lance dans un projet professionnel, elles ont du mal à être prises au sérieux quoi.
Ouais. Enfin,
c'est toujours le côté ah ouais, ah c'est un vrai truc. Mmh. Ah non mais vous cherchez vraiment des non mais et mais, en fait on travaille là, on n'est pas en train de je sais pas enfin c'est à chaque fois il y a toujours ces trucs là qui reviennent, ça ne s'arrêtera jamais, j'ai l'impression.
La fatigue.
Et sinon j'avais envie de rebondir sur ce que Aude elle dit dans son témoignage sur la représentation des femmes dans les jeux, des personnages féminins dans les jeux de plateau, dans les jeux de cartes.
Ouais,
alors, en exclusivité pour Yes Podcast, j'ai mené un sondage exceptionnel.
Oh ouais.
J'ai fait une petite étude chez moi sur mon canapé pour voir comment étaient représentés les personnages genrés féminins dans les jeux que j'ai à la maison. Voilà, je me suis chauffée. Et donc j'ai recensé en fait toutes les représentations genrées de personnages. C'est pas du tout scientifique, hein. C'est vraiment un peu au doigt mouillé. J'ai quand même fait un joli tableau Excel que je mets à disposition de celles et ceux qui le souhaitent. Enfin bon, ça m'étonnerait quand même. Donc question de méthode, j'ai pris en compte le matériel de jeu, donc les cartes, les pions, les plateau, mais pas les boîtes ni les règles du jeu, parce que ça me faisait quand même un peu trop de travail et que j'avais un peu, voilà, j'étais quand même pas si motivée que ça. Et j'ai pris en compte les figures humaines et aussi toutes les créatures et les animaux. À partir du moment où on peut supposer un genre à la bébête qui est mise sur la carte ou sur le plateau. Et donc, attention, résultat de ma grande enquête qui porte sur 10 jeux de société.
Roulement de tambour.
Donc j'ai trouvé 246 pré-représentations genrées différentes, et quel pourcentage de représentation féminine qui fait le roulement de tambour. Alors, j'ai un peu moins de 25% de représentation féminine, donc moins d'un quart. Et encore, dans les 10 jeux que j'ai un jeu de cartes autour du roller derby. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, et franchement, si vous ne connaissez pas, courez tout de suite.
C'est que vous
n'avez
pas écouté l'épisode sur le sport.
Ou alors, vous n'écoutez pas suffisamment Yes, quand même, parce que j'en parle tout le temps. Alors, le roller derby, c'est un sport féminin et féministe, super badass que je pratique. Donc, forcément, quand tu fais un jeu de cartes autour de ce sport, ben, il n'y a que des représentations féminines. Donc, j'ai quand même enlevé ce jeu de cartes pour prendre
fausser les résultats.
Voilà, qui avait complètement faussé les résultats. Et en prenant les 9 jeux, on tombe en fait à 17% de représentation de personnages féminins. Voilà.
Mais pourtant, dans le monde, on est plus que ça, je crois. dans la vraie vie.
On est un peu plus de 50%, donc on devrait être 50%,
voilà.
Non ? Voilà. Et donc, je me suis aussi intéressée à comment sont représentés les personnages féminin et masculin. Donc, vous ne serez pas surprise d'apprendre que du côté masculin, il y a plus souvent des représentations ou des caricatures de personnages célèbres, par exemple des personnages historiques ou des personnalités politiques ou des personnages de fiction bien connus. Donc, j'en ai trouvé 21, donc mecs, contre seulement 4 représentations féminines qu'on peut nommer ou qu'on peut en tout cas raccrocher à quelqu'un de célèbre ou de connu. Alors, autre chose aussi, c'est que les représentations féminines sont quasiment systématiquement sexualisées, alors que ce n'est jamais le cas pour les cartes masculines. Et par exemple, même sur des personnages féminins qui sont représentés, des fois ils rajoutent, vous voyez juste le petit trait pour montrer que quand même elle a des gros nichons. sur le décolleté. Ouais, ouais. Vous voyez ce genre de représentation, alors que des fois, vraiment, ça sert à rien. Il y a même sur une des cartes d'un jeu que j'ai qui représente, en fait, une femme qui est habillée avec un vêtement avec une capuche. Et il y a un endroit où on lui met un petit trait au niveau de la poitrine, alors que, à mon avis, l'illustrateur ou l'illustratrice a voulu lui dessiner genre un col roulé, un pull un peu montant ou quoi. Ouais. Du coup, c'est assez bizarre. Mais il y a vraiment ce truc de, elles sont systématiquement représentées avec des gros seins. Et la dernière chose qui m'a interpellée, après on pourrait en faire des heures, hein, mais c'est qu'il y a très très peu de cartes où sont représentées à la fois des personnages féminins et masculins. J'ai trouvé seulement 11 cartes sur plus de 200 que j'ai pu observer.
Ah, ils sont toujours très séparés. Hein.
Voilà. Et puis pour terminer, quand ce sont des humains, quand ils sont représentés, ils sont tous blancs. Voilà.
Bah voyons.
Ça aussi, c'est étonnant.
Bah voyons.
Bah merci pour cette étude.
Oui, merci, Marga.
En détail de tous ces jeux, c'est cool.
Si vous voulez venir jouer avec moi.
Je pense qu'on pourrait en faire plein des études dans le genre, franchement. Et ça, c'est édifiant, évidemment. Ça m'étonne pas du tout. Malheureusement, moi, ça fait quelques mois là que je travaille sur un jeu et du coup, j'ai testé plein de jeux et ça m'est arrivé plusieurs fois, limite d'arrêter en plein milieu, genre non, mais là, c'est trop sexiste ou c'est trop raciste, genre c'est bon, tu vois. Des jeux où ils te disent imiter l'accent chinois, t'es là quoi ? Non mais ou imiter l'accent africain, ça j'adore. Il y a 54 pays en Afrique, mais ok. Et voilà. Et du coup, je voudrais quand même parler de quelques jeux de société féministes que j'ai découverts. Récemment et qui sont vraiment super cool. Il y a notamment Who's She en anglais qui existe aussi en français. C'est en gros un qui est-ce. Donc pour celles qui sont plus ou moins de notre génération, vous devez vous en souvenir. Les autres, je sais pas, mais c'est un jeu où en fait
t'as... ça existe toujours.
Ouais, mais c'est un jeu où en gros tu dois faire deviner un personnage parmi plein et en fait là c'est que des femmes. Et t'as pas le droit de les faire deviner en parlant de leur apparence physique. Tu dois dire, par exemple, est-ce qu'elle est allée sur la Lune? Est-ce que c'était une scientifique? Est-ce que c'était une artiste? Etc. Donc, j'adore ce jeu. Et ça marche aussi super bien avec des enfants. J'ai déjà joué avec des enfants. Franchement, c'est hyper efficace. Ensuite, il y a Bad Bitches Only, qui est un jeu pour faire deviner, en fait, des femmes célèbres, alors plus ou moins célèbres, hein, c'est pas forcément... Il y en a beaucoup de cartes. Et c'est super cool, en mode jeu d'apéro, ça se joue très facilement. Et il y a aussi Sexploration, qui est édité par Topla, où en gros, là, à la base, c'était un projet de fin d'études de Claire Vimont. Et en gros, c'est... Alors là, c'est plus un jeu peut-être de pédagogie pour les ados, qui peut servir aussi dans des plannings familiales et ce genre de choses, pour parler de sexualité de façon complètement décomplexée pour faire aussi un peu de la prévention et tout. Et c'est super cool, il y a toute une galaxie de jeux autour, notamment que j'aime beaucoup, qui s'appelle le jeu des privilèges, pour faire prendre conscience aux gens de leurs privilèges, donc ça fera pas de mal à certains, je pense. Et donc voilà pour les jeux féministes, je sais pas si vous en connaissez d'autres. Il y en a pas des masses, hein, honnêtement.
Ouais, non, des jeux féministes, non, c'est vrai que j'en connais pas, non.
Ouais. Bah peut-être ton jeu sur roller derby, non, c'est pas un peu féministe, hein?
Ouais, ça peut, mais en vrai, c'est vraiment un truc pour apprendre les règles du roller derby, en fait.
D'accord, c'est, ok.
Il faut vraiment avoir.
C'est le
envie
sport
de...
qui est féministe.
Voilà, c'est le sport qui est féministe. Voilà, s'il y en a des personnes intéressées pour apprendre les règles, je veux bien vous le conseiller, mais sinon, ouais, franchement, il y a des façons plus sympas de s'amuser, ouais.
Et voilà, du coup, je vais vous parler de Ludigirl maintenant. Donc Ludigirl, en fait, qui s'appelle Julia dans la vraie vie. Moi, je l'ai rencontrée au salon du jeu à Cannes, où j'étais en février pour présenter le jeu inspiré de Yes, dont je vais vous parler un peu plus tard. Et alors, elle faisait partie d'un groupe de meufs super badass et féministes du milieu ludique. Et c'était vraiment une rencontre très, très chouette, pleine de sororité. Donc, elle, en fait, elle a créé un blog qui s'appelle Ludigirl et qui est un blog sur les jeux de société, mais pour objectif, en fait, de promouvoir la place de la femme dans le jeu de société. Donc, je vais vous laisser l'écouter. Après, on en discutera.
Donc mes débuts ont été un peu difficiles parce que j'ai reçu des remarques un peu désobligeantes, des messages sexistes tels que toi t'es une nana en fait, donc il te suffit juste d'avoir des seins pour réussir, t'as pas besoin d'être intelligente ou compétente, juste le fait d'être une femme ça fera liker. ou bien des mecs qui m'envoyaient des messages pour me dire que eux ils pouvaient pas se lancer dans le blogging ou sur Instagram parce que voilà, ils étaient nombreux et ils pourraient pas se démarquer alors que moi voilà, j'avais pas besoin de faire grand-chose, j'aurais du like parce que je suis une nana. Autant vous dire que ça a été un peu difficile à gérer parce que moi j'arrivais toute naïve dans l'univers et puis j'ai eu le malheur de proposer un concept qui mettait en avant la femme justement parce qu'on est peu nombreuses et que je voulais créer un groupe solidaire et puis qu'on voit un peu plus les femmes dans le milieu. Et ça m'a valu des messages tout aussi adorables me disant que j'étais hyper sexiste parce que je n'invitais pas les hommes, que j'étais qu'une féministe et que de toute façon, mon blog n'avait pas de sens. Donc voilà, ça a fini par m'atteindre et je me suis sentie vraiment pas légitime et j'étais toujours en train de paniquer à chaque article, à chaque publication d'article parce que j'avais peur un peu qu'on me tombe dessus étant donné les messages que j'avais reçus dès le lancement. Et ça n'a pas loupé, on m'est tombé dessus un jour quand j'ai écrit une review sur un jeu de société féministe qui s'appelle Les Foufounes, dans lequel on affichait des vulves de manière rigolote pour délier les langues sur les soucis que pouvaient avoir les femmes par rapport à leur intimité et par rapport à tout ce qu'on peut leur imposer dans la société. Ça n'a vraiment pas plu et ça m'a doucement fait rire parce qu'un homme qui en a parlé quelques semaines plus tard n'a pas du tout reçu les mêmes commentaires. Et surtout, j'ai vu aussi quelques semaines après au Festival de Cannes qu'on distribuait King Size à la presse, qui est un jeu où on lance des dés et on fait grossir une verge. Donc voilà, c'est là que j'ai réalisé que mon blog avait vraiment un sens parce qu'il y avait un souci de place pour la femme dans le monde ludique. Mais le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'était vraiment un message d'espoir et positif parce que je me suis pas arrêtée à tous les commentaires désobligeants que j'ai reçus au départ. Et maintenant, le blog est en train de décoller sur Instagram. Il y a une vraie communauté qui se crée autour de Ludigirl. Et vraiment, c'est encourageant pour autant pour moi que pour la femme dans le monde ludique. Donc voilà, je voulais remercier aussi toutes les femmes qui m'accompagnent chaque mois pour la rubrique du Girl Band pour les mettre en avant. Ça me fait vraiment plaisir qu'elles m'aient suivie dans cet objectif.
Ils sont jaloux.
Oui, c'est clair. Mais moi, je trouve vraiment cool son concept Ludigirl parce que elle est, bah, c'est un peu comme Yes dans un sens, le côté collaboratif où en fait, elle veut vraiment être dans la sororité, mettre en avant d'autres femmes, etc. C'est pas un truc genre pour se mettre en avant juste elle personnellement ou quoi que ce soit. À aucun moment, en fait, et c'est assez intéressant que les mecs ne remarquent pas ça du tout et qu'ils soient juste tout de suite sur « Non mais toi, de toute façon, gna gna gna, t'es une femme, je sais pas quoi. » C'est quand même incroyable, ces arguments... Toi, tu peux te démarquer parce que t'es une meuf, donc c'est pas juste, hein. Ouais. C'est un peu inception de leur propre sexisme, en fait, je trouve.
C'est clair.
Et surtout qu'il y a vraiment quasiment aucun blog, en fait, de meufs qui parlent de jeux. C'est très, 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 très rare. Donc, si on suit leur logique, elles devraient continuer à ne pas exister de peur que le fait d'être une femme ne les avantage trop et que ça devienne injuste pour les hommes qui voudraient se lancer dans le blogging. Non mais c'est quand même un truc de fou, enfin je sais pas. Et du coup ça m'a fait penser aux arguments qu'on entend souvent, c'est les féministes qui sont sexistes, c'est les antiracistes qui sont racistes, etc. Sous-entendu parce qu'on renforcerait le genre ou on renforcerait la race. Et voilà, et donc bah, tout à l'heure je te demandais Anaïs, toi qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent ça, non mais en fait c'est toi la sexiste dans l'histoire.
Oui, c'est les féministes qui sont violentes, tout ça. Ben oui, moi je réponds systématiquement que j'ai passé 7 ans à avoir des messages, des témoignages de femmes traumatisées par des hommes et jamais d'hommes traumatisés par des féministes en fait. Et qu'on n'a toujours pas de traces de séquelles ou de blessures concrètes causées par les féministes.
C'est
mais
ça,
c'est impressionnant
ça.
Le nombre de fois où ça ressort. Hein.
Si, à part à leur ego des fois.
À leur ego, oui, voilà, très probablement.
En fait, c'est ça, c'est leur ego qui est blessé, quoi.
Mais ça ne provoque aucune ITT, donc ça ne compte pas.
Non, c'est ça, il n'y a pas d'ITT, donc chut. Et voilà, après, on voit bien le double standard aussi hein, qu'elle décrit quand elle dit... Bah, quand elle a parlé du jeu Les Foufounes, d'ailleurs, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est assez cool, c'est un memory game avec des chattes. Et en fait, voilà, un homme qui parle du même sujet, ben, personne ne le fait chier, en fait. Alors qu'elle, quasiment le même article, elle reçoit je sais pas combien de commentaires horribles. Et aussi, je trouve ça hyper drôle, en fait, le truc du jeu qui a été distribué au salon du jeu, là, où, en fait, le but, c'est de faire grossir une verge, quoi. Genre, les mecs, mais au secours, quoi. Encore une preuve que les pénis dans l'espace public, c'est freestyle, c'est quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Par contre, des vulves, alors là, oh my god, enlevez-moi ça, je ne veux pas voir ça. comme une nana à Marseille là qui avait mis plein de qui avait fait des moulages de ouais. vulves un peu partout, et il y en a plusieurs qui ont été vandalisées, détruites et tout. Alors que des bites dessinées sur les murs, il y en a genre tous les coins de rue, quoi, normal.
C'est ça.
Ouais.
Ça pourrait faire le thème d'un épisode, hein, le phallisme dans l'espace public.
Ah ouais, ça c'est un gros sujet, je pense qu'il va falloir consulter les garçons. Hein.
Ouais.
Donc c'est intéressant toute cette fragilité masculine, hein, les réflexes défensifs dès qu'on pointe du doigt un privilège dont on bénéficie mais dont on n'a pas conscience et qu'on voudrait surtout pas perdre. Bref, en tout cas, suivez Ludigirl sur Instagram si ça vous intéresse les jeux de société, elle a son blog aussi, donnez-lui de la force. C'est vraiment super cool ce qu'elle fait. Elle vient de sortir aussi, parce qu'elle parlait du girl gang, et en fait, elle a créé un international girl gang, où en gros, il y a plusieurs blogueuses de plusieurs pays qui vont se retrouver et qui vont échanger sur le jeu et tout ça. Et je trouve ça mais trop, trop fort.
Bravo, j'en mets. Et du coup, ben, Marga, tu nous présentes notre prochaine warrior.
Ouais, alors dites-moi, vous avez des souvenirs de babyfoot au collège ou autre?
Ouais, carrément.
Vous avez des choses que vous avez envie de partager?
Non, ça va.
Non.
Parce que pour moi, c'est quand même un peu un traumatisme. Moi, ça me rappelle les mecs agglutinés autour. La difficulté, alors même si tu crèves d'envie d'y aller jouer, mais la difficulté pour les filles d'y accéder, c'était pas validé par le groupe de mecs. C'est-à-dire que tu dois être cool selon leurs critères à eux. Ouais. Et surtout, alors moi, c'est vraiment le truc qui m'a dégoûté, quoi. Ces gros dégueulasses qui crachaient sur les poignets du baby pour que ça glisse mieux.
Oh, mais non.
Horrible! Bref.
Mais quoi?
Je te jure.
Au secours.
Mais tout ça, c'est fini. Et c'est fini grâce à qui? Grâce à Léo Caddy. Et vous la connaissez pas encore. Mais c'est pas grave parce que vous allez bientôt la connaître parce que c'est l'inventrice du merveilleux, du superbe, du sublime. Baby Fouf.
Ouh, ouais. J'ai hâte de voir ça.
Je voudrais vous parler de mon Baby Fouf. C'est un Baby Foot que j'ai créé en bois, dont le plateau est une grande chatte en 3D. Il n'a pas de but, sa balle est un boulard transparent rappelant la cyprine, et ses joueurs sont des bites, des doigts, des langues, des sextoys, en tout genre et de toutes les couleurs. J'ai créé le Baby Fouf comme un espace de redécouverte de la sexualité. Une grande métaphore du cul à plusieurs. Il n'a pas de but, peut se jouer de 2 à 4 personnes avec qui on veut. On commence la partie et on la termine quand on le désire. On se donne les objectifs que l'on veut. Remonter la cyprine des lèvres jusqu'au clitoris, la faire redescendre vers le vagin, faire des tours de vulve. La chatte étant faite de monts et vallées, elle rappelle que le sexe n'est pas facile et souvent prompt à des ajustements. Il y a des zones où il faut y aller avec les doigts pour décoincer la balle, souffler dessus, soulever la table. Je me suis attachée au baby-foot parce que je voulais tataner tout le monde au baby-foot petite. Je ressentais que c'était un jeu pour les garçons et je voulais les battre à leur propre jeu. C'est un jeu de bar qui sert souvent à prouver sa virilité et sa domination sur le groupe. Et c'est un jeu d'espace public, traditionnellement masculin. Backroom monopolisé par les hommes, espace comme réservé à la masculinité. Exemple, quand j'étais à Hanovre en Allemagne, il n'y avait que 2 meufs pour 4 baby-foot pleins. Le jeu, c'est un espace de lutte et de pouvoir, notamment de reprise de pouvoir. Et je pense au jeu des suffragettes, par exemple, où il fallait éviter la police. Je voulais donc le transformer pour en faire un outil d'éducation sexuelle, pour le dégenrer et pour m'amuser avec tout ce que le cul peut offrir. J'ai vu beaucoup de gens y faire des parties à rallonge pendant une exposition, se demander ce que c'était que certains sextoys, poser des questions sur l'absence des buts, commencer et arrêter quand bon leur semblait. J'ai vu des familles s'en approcher, certains parents s'en offusquer, et tout plein de personnes, de tout genre confondu, s'y amuser. Plusieurs m'ont dit avoir appris quelque chose sur le sexe en jouant. Et c'était une grande victoire pour la pédagogie par le jeu.
C'est génial, j'adore.
Mais trop
j'adore.
Bien.
Mais c'est trop intelligent, c'est
mais
trop
grave.
Créatif.
C'est super créatif, ouais, franchement, c'est de l'art contemporain, quoi.
Et c'est hyper sexy, la façon dont elle en parle. Moi, j'ai adhéré mot pour mot, quoi. J'adore.
Trop, trop bien.
Donc, pour l'instant, donc Léo Caddy, elle a exposé son Baby Fouf à Marseille pendant un micro-festival qui s'appelle Garce. Alors, elle lance un peu une annonce parce qu'elle a vraiment envie de le faire voyager, son Baby Fouf, et nous, on a envie de l'aider à le faire voyager aussi. Donc, si vous organisez des événements féministes qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à la contacter sur Insta, @je.de.chat. Jeu de chatte.
Jeu au pluriel.
Tout simplement.
Et Tout simplement. Et donc, le jeu dont elle parle, le jeu des suffragettes, en fait, c'est un jeu qui a été créé en 1908 par la Women's Social and Political Union au Royaume-Uni.
Okay.
Et qui, en fait, est le premier jeu féministe, en fait, du monde. Où, en fait, effectivement, donc le but, c'était un groupe de suffragettes qui doit envahir, alors je sais plus quel lieu public, mais qui doit envahir, en fait, je crois que c'est la Chambre des communes en Angleterre. Et pour cela, bah, il faut échapper à la police. Voilà, donc le premier jeu féministe.
C'était déjà bien vénère. Bien.
Ouais.
Trop bien. Et du coup, bah Elsa, si tu nous parlais un petit peu de ce fameux jeu qui dérive de Yes.
Mais qu'est-ce donc ?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Alors, bah en gros, donc ça fait presque un an maintenant, je sais plus exactement à quand ça remonte, que j'ai rencontré donc Axel Gay, qui est game designer, qui fabrique des jeux à messages sur des sujets de société comme le réchauffement climatique ou l'addiction aux écrans, ce genre de choses. Et en fait, assez vite, voilà, on s'est dit en fait, ça serait cool de faire un jeu pour Yes, en fait, pour les auditrices de Yes, et pour prolonger l'expérience du podcast, à savoir quelque chose qui nous aide à s'entraîner à riposter, un peu un outil de self-défense qui permettrait de s'entraîner quand on est entre amis ou en famille, parce que quand on est dans la rue ou au travail ou dans n'importe quel espace où on subit du sexisme, sur le moment, on a souvent la sidération, on sait pas quoi dire, etc. Et du coup, voilà, on s'est dit, bah nous, on a toutes ces warriors qui nous ont envoyé plein de répliques géniales. On pourrait les partager avec un maximum de gens, en fait, pour que des femmes puissent s'entraîner. Du coup, on a utilisé pas mal de punchlines qui viennent de Yes, mais aussi des défis, des impros. C'est un outil qu'on a vraiment pensé comme un jeu. Quand on le teste, ça marche super bien, ça déclenche plein de discussions. Une fois, je me suis retrouvée à jouer jusqu'à 2h du mat, parce que des fois, on faisait des pauses de 30 minutes pour avoir des discussions super intéressantes, en fait, avec les gens autour de la table. C'est un jeu auquel vous pourrez jouer donc entre amis, en famille. Je l'ai même testé avec des ados, même des jeunes de 13 ans, et des personnes aussi beaucoup plus âgées, ou on va dire 60, 70 ans. Ça marchait très bien dans tous les cas. Tous les mecs qui ont joué ont fini par dire « Waouh, je me rendais vraiment pas compte de ce que vous vivez au quotidien », parce qu'en fait, les attaques qu'ils lisaient, ils se disaient « Mais c'est pas possible, quelqu'un a vraiment dit ça ?» Bah oui, clairement. Donc pour sensibiliser vos mecs, vos potes, vos pères, vos frères, vos cousins, alors là, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. On a la chance d'avoir Anaïs, notre super graphiste, qui a fait donc toute l'identité visuelle. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle était ta démarche pour faire le logo et tout ça?
Bon, l'idée, c'était de prolonger l'esprit de Yes, mais du coup on a développé un logo avec une couronne, parce que on n'arrête pas de s'appeler les Warriors, donc moi j'estime qu'on est toutes des queens, en fait, on est toutes des reines.
Des reines
juste par le simple fait de survivre à tout ce qu'on subit. On est des reines, donc le logo se base sur cette forme là et toute l'identité est déclinée de ça. Et c'est Axel Gay, donc la designer avec qui Elsa bosse, qui a fait les illustrations. Et du coup, voilà, on a développé un esprit de queen, de warrior, d'experte, etc. Et on a des profils de femmes fortes qui ressortent en fin de jeu.
Carrément. Et donc là, si vous voulez voir, déjà, on a mis quelques trucs en ligne, donc notamment sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, @moicestmadame, tout attaché. Donc vous pourrez voir une partie du graphisme, et on va continuer à poster d'ici septembre, parce qu'en fait, en septembre, on va lancer donc un crowdfunding sur Ulule. Et du coup, on espère que ça vous plaira. On a vraiment besoin du soutien de toutes les warriors. On a vraiment hâte que vous l'ayez entre les mains, que vous nous racontiez vos parties, comment ça se passe, et voilà, ce que ça a réveillé chez vous. N'hésitez pas à nous suivre donc sur les réseaux. On va raconter un peu toute l'aventure, et surtout en septembre, on balance le financement participatif, et on compte sur vous.
Yes. Et moi, c'est Madame. D'ailleurs, le nom est tiré du premier épisode de Yes, dans lequel Alix avait répondu « Moi, c'est Madame » à un homme qui l'appelait Mademoiselle et qui l'infantilisait. On l'embrasse fort au passage.
Ouais, une réplique que j'utilise, mais super souvent en plus.
Ah ouais, je crois que c'est vraiment la punchline des deux saisons, quoi.
C'est clair.
Elle peut servir en toutes circonstances.
C'est même écrit sur nos cartes de visite.
Oui. C'est vrai.
Et je peux vous dire que ça fait rire les gens, hein, quand je donne ma carte et qu'il écrit « Moi, c'est madame », c'est genre « Ok, celle-là, on va pas l'emmerder ».
Ambiance.
J'adore.
Bon, bah parfait. Bah, c'est déjà la fin de cet épisode spécial jeu. Bah, j'espère que ça t'a inspiré. On remercie nos warriors, du coup, Clara, Léocadie, les Gougères, Lucie, Aurélie, Ludiger, les Vanilles. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos expériences et bravo pour vos bastonnades à 360 degrés. On remercie également Numérama pour son enquête spéciale sur le sujet et les témoignages qu'ils ont fait ressortir. Et dans le prochain épisode, on parlera de warriors contre le racisme. Donc pour l'occasion, nous aurons une super invitée. On vous présentera Lily, qui fait partie des organisatrices de la marche contre les violences policières à Marseille. Elle et ses consœurs ont réussi à faire descendre dans la rue plus de 3000 personnes en moins de 24 heures. Donc c'est de la warrior level olympique.
Yes.
Et de ton côté, bah, si t'as créé un collectif de meufs racisées, si t'as arrêté de faire de la pédagogie avec les blancs qui ne voient pas les couleurs, si tu survis en France malgré le racisme omniprésent, on veut tout savoir, dis-nous tout. Et tu peux d'ores et déjà nous écrire ou nous envoyer un audio à toujours la même adresse, warriors@yespodcast.fr. Tu peux nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, @yespodcast avec toujours 3S. Et tu peux aussi nous écouter, partager nos épisodes depuis iTunes, Spotify, Podcast Addict, tout ce que tu veux. Et si le cœur t'en dit, bah tu peux toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes pour contribuer à nous rendre un peu plus visibles. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, t'es capable, t'es forte, t'es douée, t'es déterminée, tu déchires tout, quel que soit le plateau. Bref, meuf, t'es une warrior.
Yes!